Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous, c'est l'heure du journal, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va tenter de répondre à une question ce matin en ce 1er mai. Allons-nous pouvoir acheter une baguette de pain à la boulangerie, un brin de muguet chez le fleuriste, alors où le gouvernement prépare une loi pour 2027 et appelle en attendant les inspecteurs du travail à l'intelligence collective. Nouveau coup dur pour le portefeuille. Après l'essence, les prix du gaz vont grimper pour plus de 7 millions de ménages. À partir d'aujourd'hui, êtes-vous concerné? On vous explique dans ce journal. Et Strasbourg, qui devra gagner la semaine prochaine pour décrocher sa place en finale de Ligue Conférence après sa défaite hier soir dans le dernier carré, battu 1-0 par le Rayo Vallecano.
Près de 2 ans de débat et ce matin, on est encore dans le flou le plus total, ce 1er mai, autour de l'ouverture de certains commerces.
Et les boulangeries, les fleuristes, si le gouvernement entend légiférer pour 2027, aucune loi n'existe à ce jour, on peine à y voir clair. Marion Gauthier, est-ce qu'ils ont le droit d'ouvrir aujourd'hui ?
Pas s'ils font travailler leurs salariés. C'est la loi actuelle qui s'applique. Donc sont autorisés à travailler les professions indispensables, les hôpitaux, les usines qui ne peuvent pas s'arrêter, dans l'énergie par exemple, et les patrons seuls. Le 1er mai est un jour chômé obligatoire pour tous les salariés, insistent les syndicats. Le gouvernement demande depuis des semaines une dérogation pour les boulangers et les fleuristes qu'ils puissent ouvrir avec des employés volontaires et payés double. Mais la loi, le cadre juridique n'est pas encore voté. Un projet de loi a été déposé cette semaine au Sénat.
Et ce sera donc, Marion, qui tout double aujourd'hui pour ceux qui vont décider d'ouvrir leur boutique ce matin.
Oui, en principe, ils peuvent faire des rappels à la loi ou mettre des amendes. Le ministère du Travail répète, les inspecteurs sont libres de dresser des procès-verbaux. Mais dans une note que RMC vous révélait hier, le directeur général du Travail leur rappelle tout de même le contexte. Les boulangers et les fleuristes répondent à des besoins essentiels du public, défend-ils. Ils s'inscrivent dans la tradition du 1er mai. Un appel implicite à ne pas faire de contrôle pour certains inspecteurs. Hier, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a dit « penser ». Que les artisans boulangers et fleuristes pouvaient ouvrir.
Le 1er mai, donc, fête du travail et du monde dans la rue à l'appel des syndicats. Jusqu'à 150 000 personnes, selon les autorités, qui anticipent la venue de centaines de Black Blocs à Paris. Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, d'appeler à la tolérance zéro en cas de débordement. Autre manifestation demain, pêcheurs, agriculteurs, taxis, routiers, les oubliés de la crise réunis à Paris pour dénoncer la hausse des prix des carburants. Et c'est dans ce contexte que Total Energy prolonge, tant que la crise au Moyen-Orient durera, le plafonnement des prix des carburants dans les stations service. Le groupe, qui engendrait des bénéfices records au premier trimestre de l'année, annonce également des opérations commerciales sur le gazole, sur les week-ends de pont, de mai à 2,09€ le prix. Hausse du prix de l'essence et désormais du gaz. 15% de plus aujourd'hui pour 7 millions de foyers aux contrats indexés. Louise Salé sur les prix du marché.
Oui, ces ménages devront payer environ 6€ supplémentaires en mai, une hausse qui pourrait s'accentuer dans les mois à venir, en particulier l'hiver prochain. Clarisse Berger est chargée de mission énergie pour l'association Que Choisir Ensemble.
Actuellement, les consommations de gaz sont assez basses du fait de la période estivale, mais il y a des vraies inquiétudes à avoir sur ce qui va se passer à l'automne quand il faudra rallumer son chauffage si le conflit devait se poursuivre.
Et à ces variations de prix liées au conflit s'ajoute une autre augmentation importante à prévoir dans les années à venir.
Le gouvernement souhaite électrifier les usages et donc inviter le plus de ménages possible à basculer à l'électrique. Et ce qui fait que comme les coûts relatifs à l'entretien de l'infrastructure sont répartis entre le nombre d'abonnés au gaz, moins on a d'abonnés au gaz, plus ça coûte cher pour ceux qui restent.
La facture annuelle pourrait alors grimper de plus de 300€ d'ici 2030, selon une étude publiée cette semaine par des associations de consommateurs.
Encore un coup au porte-monnaie à l'heure où la rémunération des grands patrons ne connaît pas la crise. Elle augmente 3 fois plus vite que celle des salariés. Leur salaire augmente 3 fois plus vite que celle des salariés en 2025. Selon une étude de l'Oxfam, des salariés les plus modestes qui ne bénéficieront d'une 30aine d'euros de plus par mois en juin. Le ministre de l'Économie évoque l'augmentation du SMIC si la poussée de l'inflation se poursuit à 2,2% en avril selon l'INSEE.
Et ce matin, on va parler de votre pouvoir d'achat. On va en parler avec vous au 32-16. Bien entendu, avec la croissance à l'arrêt et l'inflation en hausse, la hausse des prix du gaz, on vient d'en parler, dans le contexte des carburants. Est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat, les Français? Nous sommes dans le rouge de plus en plus tôt dans le mois. Est-ce que vous craignez pour les mois à venir, les hausses des prix notamment? On vous attend au 32-16.
Il n'a que 15 ans et il est soupçonné d'être à la manœuvre de la cyberattaque d'ampleur menée contre le site de l'ANTS mi-avril, interpellé la semaine dernière. Il a été mis en examen hier soir. Un jeune mineur qui n'en est pas à son coup d'essai, RMC a enquêté. Rendez-vous dans le journal de 7h30.
Et juste après, on sera aussi en direct avec un hacker éthique qui vient aider justement contre les pirates informatiques. Il sera en direct avec nous. Réélu d'une courte tête en mars, le maire de Valenciennes va devoir démissionner.
Condamné hier à 2 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, l'élu Horizon Laurent de Galet va donc devoir quitter tous ses mandats. Maire, président de la métropole et conseiller départemental, reconnu coupable en première instance, Romain Houg, de prise illégale d'intérêt et subornation de témoins.
Oui, Laurent de Galet a été condamné par le tribunal de Lille pour avoir fait pression dans le but de faire embaucher une femme avec qui il entretenait une relation intime dans une société en charge des parkings de la commune, mais aussi et pour avoir utilisé son statut de maire afin d'accélérer le licenciement d'une autre femme, elle, proche d'opposants politiques. Pendant le procès, la présidente a dénoncé le sentiment d'impunité de l'édile, sa perte complète de repères et son absence de remise en question. Le procureur, lui, le compare, je cite, à un dieu qui décide tout à Valenciennes. C'est donc pour prise illégale d'intérêt et subornation de témoins qu'il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est-à-dire que malgré son appel, Laurent de Galet ne peut plus exercer ses fonctions de maire. L'opposition appelle désormais à de nouvelles élections.
Le statu quo qui demeure ce matin entre les États-Unis et l'Iran sur fond de blocage du détroit d'Ormuz. Une chose est sûre, c'est que l'équipe nationale iranienne va pouvoir participer à la Coupe du Monde de foot dans un peu plus d'un mois aux États-Unis. Confirmation de la FIFA. Hier, c'est OK, répond Donald Trump.
Qu'il joue, a-t-il même dit derrière. Strasbourg, puisqu'on parle de foot, condamné à un nouvel exploit.
Battu 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano en demi-finale de Ligue Conférence hier soir. Et comme au tour précédent, Sébastien Ruffet, les Alsaciens devront s'imposer à domicile la semaine prochaine pour se hisser en finale de la compétition.
Rien n'est jamais évident avec ce Racing, tantôt flamboyant, tantôt décevant. L'effectif jeune et ambitieux navigue entre deux eaux sur la pelouse du Rayo Vallecano. Strasbourg n'a tiré que 3 fois et jamais dans le cadre. Un match triste mais qui n'est que la première manche, comme l'a rappelé le défenseur Andrew Omobavidele.
Ils nous ont un peu surpris, mais on doit jouer tout le match comme on l'a joué la première mi-temps. On sait les erreurs qu'on a commises. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que la première mi-temps. On sait ce qu'on doit changer en vue du match retour, comme on a pu le faire contre Mayence.
Match triste aussi pour les supporters du Racing, désabusés par l'attitude affichée ce jeudi soir par leurs protégés.
On a manqué d'agressivité, mais vivement le match retour.
On est un peu déçus du résultat, on s'attendait un peu mieux avec le match retour de Mayence, mais on espère qu'ils feront la même chose la semaine prochaine à la Méno.
Strasbourg s'est donc à nouveau loupé sur un match aller, mais il sait qu'il est capable aussi de produire une nouvelle nuit magique. Rendez-vous pour cela jeudi prochain à la Méno.
Lui aussi joue sa place en finale. Le tennisman Arthur Fils, engagé ce vendredi sur la terre battue du Masters 1000 de Madrid. Le numéro 1 français affronte le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, dans cette demi-finale du tournoi.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal de 7h. Je regardais la fiche d'Alicia qui nous a appelé au 32-16. On dit bonjour à Alicia qui nous appelle du Pas-de-Calais ce matin. Bonjour Alicia.
Bonjour à toute l'équipe du morning.
Alors 7h08, vous êtes réveillée. Un jour férié et chômé. Alicia, qu'est-ce que vous faites de beau?
Je suis dans le nettoyage industriel et comme vous le savez, il y a beaucoup de batteries qui sont produites pour les voitures électriques en ce moment. Et il faut un environnement ultra propre, donc comme la chaîne travaille, ben moi aussi.
Ça fait partie des emplois salariés dont on considère qu'on ne peut pas les interrompre aujourd'hui.
C'est ça, et en plus, ben, quand on est au SMIC, une journée de travail en plus, c'est une journée double. Et vu le prix de l'essence, ben, ça va me couvrir mes frais d'essence qui ont augmenté.
Ouais, vous êtes contente de la journée payée double, j'imagine, Alicia?
Oui, c'est ça.
Simplement, c'est intéressant ce que vous disiez. Vous êtes dans une usine de batteries de voitures électriques.
Oui.
Et vous voyez, il y a eu une augmentation de la cadence.
C'est la Gigafactory d'Ouvrain de Gigaclos. Et en fait, il y a de plus en plus de bâtiments qui augmentent. Donc forcément, ça va arriver. Il y a de plus en plus de commandes de voitures. Donc on voit que ça va prendre encore plus.
Ah non, parce qu'on voyait le boom, évidemment, c'est lié au prix des carburants dont vous parliez, Alicia. Est-ce que ça se confirme ou pas? Est-ce que c'est un lien de cause à effet? C'est un peu dur de le dire comme ça au téléphone. Mais merci, Alicia, en tout cas, de votre appel ce matin.
Il n'y a pas de souci, je voudrais
aussi faire. À quelle heure, petite... Alicia?
À 15h30. Je voudrais aussi faire une petite dédicace à tous les refuges animaliers qui, eux, aujourd'hui, travaillent aussi.
Eh ben, c'est passé, parce que vous êtes engagée en la matière, Alicia?
Oui, c'est ça. Et ben, je fais la route avec mon voisin ce matin. Je vais le déposer au refuge parce que ben, le refuge de Vermel va tourner aujourd'hui avec malheureusement beaucoup de malheureux là-bas qui sont soignés très bien par nos soins.
Et c'est beaucoup de bénévoles quand même dans les refuges, non ?
Oui, très peu de salariés, ouais. Beaucoup de bénévoles, mais il y a quand même les salariés parce que les bénévoles, malheureusement, avec le boulot et les frais qui augmentent, on ne peut pas non plus aller tous les jours sauver les animaux. Donc, il y a quand même des salariés.
En tout cas, c'est bien que vous ayez pu passer ce petit bonjour, que ce soit pour les bénévoles ou les salariés, Alicia, pour les refuges d'animaux aussi. Merci de votre appel au 32-16 ce matin, Alicia, dans le Pas-de-Calais, sur le pont ce matin, agent de nettoyage. Il est 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors avec Alicia, on n'était pas chez les boulangers ni chez les fleuristes. Eric est fleuriste, il sera avec nous dans un instant. Certains font peut-être bosser leurs salariés en ce 1er mai. C'est encore interdit. Pourtant, le gouvernement a demandé aux inspecteurs du travail de faire un peu de preuve de souplesse, enfin d'intelligence collective. C'est l'expression. Bonjour Julie Ferroy.
Bonjour.
Vous êtes co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Pour vous, c'est un passage en force sur le code du travail. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC et RMC Story. Il est 7h14, 1er mai, jour férié et chômé. Et pour les inspecteurs du travail, pas question de légèreté. Bonjour Julie Ferroy.
Bonjour.
Co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Le gouvernement appelle les inspecteurs à faire preuve de souplesse, enfin l'expression c'est intelligence collective, s'ils sont amenés à contrôler des fleuristes ou des boulangers qui feraient travailler leurs salariés. C'est un passage en force sur le code du travail, c'est votre parti pris ce matin. Alors les syndicats sont mobilisés aujourd'hui, mais les inspecteurs du travail ont reçu une lettre de la direction du travail, du ministère du travail, pour le dire clairement, qui rappelle le contexte particulier de ce 1er mai, du fait qu'il y a une loi qui est en préparation, etc. Cette lettre, elle clarifie la situation ou pas ?
Alors, elle ne clarifie pas du tout la situation, elle met encore un peu plus le flou. C'est-à-dire qu'en gros, on leur demande de faire preuve d'intelligence sur une loi qui n'est pas encore passée, qui est encore en discussion, qui doit effectivement être encore discutée auprès de l'Assemblée nationale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ça fait un peu passage en force. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer sa loi, parce qu'effectivement, les syndicats se sont mobilisés pour rappeler hein, ce que c'était que le 1er mai, que c'est un jour qui est chômé. Les boulangeries, les fleuristeries, elles ont toujours pu ouvrir, mais seulement si elles ne faisaient pas travailler leurs salariés.
Et en l'état, ce matin, la règle n'a pas changé.
En l'état, la règle n'a pas changé, la loi n'a pas changé.
Alors du coup, du fait de ces indications, pour pas dire consignes, qui sont données aux inspecteurs du travail, vous parlez de violation manifeste des principes d'indépendance et de liberté des contrôles de l'inspection.
Oui, parce que en fait, c'est vraiment remettre en cause le métier d'inspecteur du travail. L'inspection du travail, elle est là pour vérifier si le code du travail est respecté. Elle est là aussi pour vérifier les conditions de travail et limiter les accidents du travail. En laissant sous-entendre que les contrôles n'auraient aucune validité, en fait, on jette un peu l'opprobre sur ce qu'est l'inspection du travail. Et puis, je voudrais rappeler qu'il y a quand même des milliers d'accidents du travail chaque année. Des milliers de morts au travail aussi, que ce soit à la fois des accidents qui ont lieu directement sur le lieu de travail ou des accidents de trajet. En fait, voilà, l'inspection du travail, elle est là pour faire respecter le code du travail et éviter les accidents de travail.
Alors, sur 1800 agents sur le territoire, hein, je ne dis pas de bêtises, 1800, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent tous aujourd'hui non plus.
Non, ils ne vont pas tous travailler.
Donc, a priori, ils ne vont pas contrôler, verbaliser tout le monde. Est-ce qu'ils vont, cela dit, dresser des PV, ces agents qui travaillent aujourd'hui aux boulangers qui emploieraient leurs salariés, par exemple?
Ils vont continuer à faire leur travail habituel, c'est-à-dire d'effectuer des contrôles, de voir si les conditions de travail sur les lieux de travail sont respectées, et puis de faire des rappels à la loi.
Donc on va accueillir Eric, là, qui fait travailler ses salariés aujourd'hui. Vous dites concrètement qu'il risque une amende aujourd'hui?
Alors, les contrôleurs du travail ne donnent pas d'amende. Eux, ils font des rapports, ils font des PV qui se transmettent ensuite à leur direction et ensuite à la justice. Et c'est derrière, en fait, les magistrats qui mettent des amendes ou pas. Et souvent,
du coup, s'ils respectent pas la loi, ils vont l'avoir l'amende.
Ben là, ce qui était demandé par le gouvernement, c'était de dire qu'il fallait que la justice soit souple aussi face aux amendes qu'elle pourrait mettre. Donc là aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est aussi une attaque sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et aussi la justice. Normalement, il y a une séparation des pouvoirs entre les deux. Et là, en fait, on demande à la justice de finalement, s'il y a un contrôle, s'il y a un PV qui est donné, de pas mettre d'amende.
Alors Eric est en ligne avec nous à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Eric est fleuriste. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous êtes ouvert aujourd'hui, hein?
Oui, je suis ouvert, oui.
Bah, alors, je voudrais juste être clair, les boulangers et les fleuristes ont le droit d'ouvrir. Ça, c'est un premier point, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion dans ce débat ces derniers temps. Vous avez le droit d'ouvrir. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est ce que vous faites quand même, c'est-à-dire de faire travailler vos salariés.
C'est ce que je fais depuis 34 ans. Les salariés sont contents, sont payés double. Voilà, c'est des employés qui sont payés au SMIC, donc une journée payée double, ils sont contents de venir travailler. Hein.
Eric, vous dites depuis 34 ans, c'est ça?
Ouais, ouais.
Jamais de contrôle?
Jamais de contrôle, et aujourd'hui, je vais en avoir un. Peut-être. Tant mieux.
Peut-être. Non, j'en sais rien, ouais. Eric. Du coup, on vous demande pas exactement votre adresse et le nom de votre fleuriste, parce que on va pas attirer l'attention non plus, mais.
Non,
vous entendez ce que dit Eric? C'est quand même qu'il y a, moi, cette situation, on en parlait pas avant. On n'avait pas ce sujet-là. Il y avait des salariés qui bossaient chez les boulangers, chez les fleuristes. Et on n'avait pas ces débats-là et cette volonté de changer la loi, etc. Eric nous dit, ça fait 34 ans que j'ai aucun souci.
Mais il y a toujours eu des contrôles qui ont été faits, effectivement. Mais souvent, les contrôles font juste un rappel à la loi, de rappeler qu'il y a un code du travail. Normalement, ne peuvent ouvrir aujourd'hui que les services qui ne peuvent pas fermer. Notamment, ben, c'est normal, hein, la santé, la sécurité... Les journalistes aussi, ouais. Voilà, tous les services qui ne peuvent pas fermer doivent ouvrir aujourd'hui, ce qui est normal. Les salariés sont payés, ceux qui travaillent sont à la fois, le jour chômé qui est payé, et à la fois sont payés pour leur journée de travail, donc effectivement ils sont payés double, c'est ce qu'on dit. Mais normalement, effectivement, toutes les autres entreprises qui n'ont pas de continuité, en fait, ne doivent pas ouvrir aujourd'hui.
Alors, moi, je me pose juste une dernière question. Je me permets, Julie Ferroy. Les inspecteurs du travail qui vont opérer aujourd'hui en boulangerie ou chez un fleuriste, très concrètement, il y a des risques de tension?
Alors, il y a des risques de tension parce que là, dans la lettre que leur a envoyée leur ministère, il y a des cellules de veille qui ont été mises en place parce que, justement, on craint qu'il y ait des tensions. En fait, s'il y a des tensions, c'est parce que le gouvernement a créé cette espèce de flou qui fait qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ne vont pas être contrôlées alors qu'elles peuvent l'être et qu'elles peuvent être, effectivement, contrôlées et recevoir derrière une amende. Donc les tensions, elles ont été créées par ce flou, par ce gouvernement, et du coup, le gouvernement met en place des cellules de veille sur l'ensemble du territoire pour faire remonter partout où il y aura eu des tensions. Donc ça nous paraît assez assez aberrant.
Eric,
ouais, j'aimerais bien avoir des petits éclaircissements pour madame. Donc nous, on est fleuristes, hein, c'est la fête du muguet, tout le monde le sait, le 1er mai, c'est le muguet, on dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les vendeurs à la sauvette? Eux, ils travaillent tous comme ça, au black, hein, ils ne payent pas de TVA. Moi, je suis ouvert aujourd'hui, je vais payer de la TVA. OK. Pourquoi déjà on ne fait pas respecter la réglementation sur les vendeurs de la sauvette qui s'installent avec des tréteaux et tout? Le muguet peut être vendu sans étalage, sans emballage.
Ouais, normalement, on a le droit de le vendre à la sauvette, justement, voilà, au black, mais, comme vous dites, mais on ne s'installe pas. Ce n'est pas avec une table et une boutique extérieure.
Voilà. Ces gens-là, eux, ils ont le droit de pas payer TVA, de s'installer, donc de nous faire des concurrentes déloyales. Bon, peu importe, ça fait partie du
premier
millier, on l'accepte. OK. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai un contrôle, comme me dit, il faut, vous n'avez pas le droit, bon, déjà, il y aura tension, ça, vous pouvez me croire, il y aura une tension avec le contrôleur.
Ça veut dire quoi, une tension, Eric?
Ouais, on va se chauffer, voilà.
Non, mais c'est... Encore une fois, ouais. Il faut leur travail, vous savez, Eric.
Oh non, mais moi aussi, je fais mon travail. Donc, je vais leur dire, OK, on n'a pas le droit de travailler. Donc, voilà, je ferme la boutique, je sors mon stock, je me mets sur le trottoir. Et puis, du coup, je vais travailler au black.
Moi, sur cet aspect-là, merci, Eric, sur cet aspect-là, Julie Ferroy. Aujourd'hui, l'inspecteur du travail, il va arriver devant la boutique d'Eric, il va contourner trois stands illégaux pour venir verbaliser Eric.
Ça va pas se passer comme ça.
Vous savez très bien que c'est comme ça dans la rue. Non, mais... Il y a des stands installés partout aujourd'hui.
Mais les stands, ils dépendent pas de l'inspection du travail.
C'est ce que je dis.
Voilà, ils dépendent pas de l'inspection du travail. L'inspection du travail, elle est là pour faire respecter les conditions de travail sur les lieux de travail. Les stands qui sont illégaux, elles ne dépendent pas de l'inspection du travail. Et je voudrais juste rappeler aussi que les inspecteurs du travail font partie d'un corps où il y a l'outrage à agent aussi qui existe.
Oh, ça, donc c'est entendu,
voilà.
Pour
ça,
Eric.
Voilà. Restez polis.
Ils sont indépendants et c'était aussi leur voix que je voulais qu'on entende un peu ce matin, parce que depuis le début de ce débat, on en a beaucoup parlé ici même, des boulangers, des artisans fleuristes, etc. Faire entendre aussi comment c'était perçu par les inspecteurs du travail que cette lettre disons-le, assez flou qu'RMC révélé, qui appelle dans ce contexte particulier à l'intelligence collective. Merci Julie Ferrand.
Je peux juste ajouter un dernier mot. Non, juste de rappeler que le 1er mai, c'est aussi un gain de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses pour 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et que quand on attaque le 1er mai, c'est ce gain-là qu'on attaque.
Merci beaucoup Julie Ferrand d'être venue défendre cette position, celle du syndicat solidaire, que partage avec d'autres syndicats en l'occurrence sur cette question-là. Merci Eric aussi qui était en direct avec nous depuis Aix-en-Provence, fleuriste dans les Bouches-du-Rhône. Il est 7h23. Et la suite, c'est Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Alors, Arthur, Donald Trump va lancer une série limitée de passeports avec son portrait.
Eh oui, c'est pas anodin, puisque Mathieu, le premier passeport, c'était déjà dans la Bible. Et jusqu'au 19e, figurez-vous que vous ne pouviez pas sortir de vos départements sans passeport.
Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 sur RMC, RMC Story. L'histoire qui éclaire notre actualité. Écoutez bien, avec Arthur Chevalier, rebonjour Arthur.
Bonjour.
Et on l'a appris cette semaine, le département d'État américain va lancer des passeports sur lesquels figureront désormais les portraits de Donald Trump.
Bah ouais, et je crois qu'on peut le dire, hein, c'est un pas de plus dans la personnalisation du pouvoir de Donald Trump. Hein. En plus du portrait du président, il y aura sa signature avec une retranscription de la déclaration d'indépendance américaine. Alors attention, c'est une édition limitée à l'occasion des 250 ans de la fondation des États-Unis, c'est cette année. Mais jusqu'ici, aucun président américain n'avait osé faire figurer son visage sur un passeport.
Alors, pour vous, le fait que ce soit sur un passeport, c'est particulièrement important ?
Alors oui, c'est très important, Mathieu, parce que le passeport, c'est pas seulement un papier d'identité, c'est un outil de contrôle. On contrôle les allées et venues des individus avec les passeports. Hein. D'ailleurs, ça l'a toujours été, la première mention d'une sorte de passeport, c'était déjà dans la Bible, donc ça date. Et avant le passeport, il y avait ce qu'on appelle un sauf-conduit, c'est-à-dire un papier délivré par un gouvernement ou une autorité compétente qui vous donnait l'autorisation de circuler loin de chez vous, dans un endroit précis, avec un but précis.
Et quand est-ce qu'arrivent les passeports ?
Alors déjà, passeport à l'origine, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est deux mots, passe et port. Pourquoi ? Port, ça vient de porte. Donc c'est ce qui vous permettait de passer la porte des villes, hein, d'y entrer si vous préférez. En France, ça se généralise au 15e siècle. Et ça ne concernait pas seulement les voyages à l'étranger, hein, parce que pour quitter votre propre région, votre propre département, il fallait un passeport. On appelait ça un passeport à l'intérieur. Si la police vous arrêtait sans ce document, vous étiez considéré comme un vagabond, c'était interdit, donc vous risquiez d'être arrêté, la prison. Donc oui, c'était du contrôle social.
C'est fou, et donc à l'intérieur de la France, on ne pouvait pas circuler librement.
Exactement, il faut attendre la Révolution française pour qu'on autorise la libre circulation en France. Alors c'était une première, et d'ailleurs ça ne va pas durer. Hein. On rétablit ensuite très vite les passeports pour circuler entre les départements. Toujours dans le même but, éviter que les ouvriers et les chômeurs n'envahissent les villes. On se disait que ça faisait des ordres. Et il faut finalement attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour qu'on puisse à nouveau circuler librement dans l'Hexagone, y compris d'ailleurs à l'étranger, puisque c'est une époque où en fait on voyageait, on passait les frontières sans trop de formalités.
Hein. Mais alors quand est-ce que les passeports deviennent justement indispensables pour voyager à l'international ?
Alors, en gros, ça date de la Première Guerre mondiale. Hein, comme tout le monde était en conflit, les frontières devenaient beaucoup plus étanches. Le système va perdurer après la guerre. C'est aussi à cette époque qu'on impose une photo. C'était pour lutter contre les espions qui essayaient d'usurper des identités.
Alors aujourd'hui, le passeport il est obligatoire pour tout le monde et dans tous les pays ?
Pas exactement, puisque par exemple, vous le savez très bien, dans l'espace Schengen européen, vous n'avez pas besoin de papier pour franchir une frontière. De même, pas besoin de passeport pour entrer au Vatican, car oui, le Vatican est un pays. Et sachez-le, Mathieu, il y a 3 personnes au monde qui peuvent voyager où ils veulent sans passeport. 3 personnes. Ces personnes, c'est le roi d'Angleterre, l'empereur du Japon et la femme de l'empereur du Japon.
Ah oui, le roi, l'empereur et sa femme.
Voilà. A priori, c'est pas pour nous. Quoi. Voilà,
hein. Non, nous, passeport. À jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Arthur Chevalier. Quand l'histoire éclaire l'actualité, est-ce que vous voudriez un passeport avec le portrait d'Emmanuel Macron en France ? Je ne vous pose pas la question à vous, non. Ce serait dangereux. Je demande à nos auditeurs.
Vous avez trop peur.
C'est très bizarre, le passeport de Trump arrivé à une frontière. Imaginez d'un pays hostile, vous commencez par montrer la tête du président. Bref, merci beaucoup Arthur Chevalier. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, la fuite massive de données de l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est presque lié. Un ado de 15 ans, tout seul, qui en est à l'origine. Hier encore, on a appris le piratage de la Fédération de basket. Un casse du siècle tous les mois, dit Sébastien Lecornu. Un hacker en direct avec nous à 7h40. À tout de suite. Il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un ado de 15 ans peut être bien derrière la cyberattaque contre l'ANTS. En garde à vue, il a avoué avoir voulu alerter sur les failles de ce site qui gère les papiers d'identité. Donald Trump va-t-il relancer les frappes sur l'Iran ? La guerre s'enlise et pèse de plus en plus sur le portefeuille des Français. Et puis Arthur Fils contre le numéro 1 mondial de tennis, Yannick Sinner, en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.
C'est donc un mineur de 15 ans qui est soupçonné d'avoir piraté la NTS.
Il a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir provoqué la fuite de données de 12 millions de personnes il y a deux semaines de la plateforme de demande de carte d'identité ou de permis de conduire. L'adolescent a expliqué aux enquêteurs avoir voulu alerter le grand public sur la vulnérabilité du site. Maxime Clieruza, selon vos informations, cela fait plus d'un an qu'il est dans ce milieu du piratage.
Oui, donc depuis ces 14 ans, nous avons enquêté sur le dark web, la face cachée d'Internet, et avons retrouvé la trace de ce cybercriminel. Bridge 3D, de son surnom, a commencé à être actif à l'été 2025. L'adolescent revend d'abord des identifiants de salariés de grandes entreprises ou de gouvernements étrangers, puis il se spécialise petit à petit dans le piratage de données. La veille de Noël, il met en vente les données de l'opérateur espagnol Vodafone, puis quelques mois plus tard, celle d'un opérateur brésilien, mais c'est finalement avec le piratage d'institutions françaises qu'il se fait connaître. Il revendique ceux de l'Imprimerie nationale, de la Police nationale, du ministère de la Santé et bien sûr de l'Agence nationale des titres sécurisés. Pour ce seul piratage, il encourt 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Cyberattaque qui a poussé Sébastien Lecornu à débloquer 200 millions d'euros la semaine prochaine pour remettre des moyens, dit-il, dans le cyber. 150 000 personnes attendues partout en France aujourd'hui pour la manifestation du 1er mai. À Paris, le cortège s'élancera de la place de la République à 14h. Les syndicats défendront particulièrement cette année ce jour férié et chômé, alors qu'un projet de loi est en préparation pour autoriser les boulangers et les fleuristes à faire travailler leurs salariés. Aujourd'hui, ces commerces vont pouvoir ouvrir dans une sorte de flou juridique.
Oui, c'est très très flou que cette lettre du ministère du Travail, et ça vous fait réagir au 32-16 comme Eric qui est fleuriste et qui travaille aujourd'hui avec ses salariés. Est-ce que vous êtes ouvert ? Est-ce que vous bossez ? Dites-le nous. Fleuriste, boulanger ou les autres. Bien entendu, vous serez en direct avec nous sur RMC. Il est 7h32 à Téhéran, en plein cessez-le-feu. Les systèmes de défense anti-aérienne se sont activés hier soir.
À cause de drones et de petits aéronefs, tout est rentré dans l'ordre depuis, mais la menace d'une reprise des frappes américaines plane. Donald Trump a réuni hier plusieurs conseillers pour discuter de cette possibilité. Antoine Hollard, correspondant d'RMC à Washington, le président américain entretient encore le flou.
Nous allons peut-être devoir le faire. Voilà ce que répond Donald Trump, le président américain, qui ne s'interdit rien alors que les négociations sont dans l'impasse. Ces derniers jours, il semblait plutôt privilégier l'arme économique avec ce blocus sur le pétrole iranien, convaincu que c'était la bonne méthode pour faire plier le régime et obtenir des concessions sur le nucléaire. Seulement voilà, ses conseillers lui ont dit que ça n'était pas une solution miracle. Il faudra probablement attendre plusieurs mois avant que le blocus fasse des effets et que le régime éventuellement finisse par céder. Or, Donald Trump ne veut pas perdre de temps. Il est impatient, il veut tourner au plus vite la page de la guerre et c'est pour cette raison qu'il envisage désormais très sérieusement l'option militaire. Hier d'ailleurs, il a reçu ici même à la Maison-Blanche les plus hauts gradés du Pentagone qui lui ont présenté de nouveaux plans d'attaque. Donald Trump qui s'est aussi exprimé sur l'uranium enrichi d'une façon ou d'une autre, nous allons le récupérer, dit Donald Trump. Soit les Iraniens nous le donnent par la négociation, soit nous irons le chercher par la force.
Donald Trump qui dit par ailleurs être OK, je cite, avec les propos de Gianni Infantino. Le président de la FIFA réaffirme que l'Iran participera au mondial de football.
Et tu sais, c'est quand même étrange cette situation qu'on va connaître dans un peu plus d'un mois maintenant. On a regardé, hein, il y a même la possibilité après les poules d'un États-Unis-Iran. L'Iran à la Coupe du Monde, est-ce que c'est bizarre ? Ça vous fait peut-être réagir sur le WhatsApp RMC ce matin. N'hésitez pas. Pendant ce temps, les prix du pétrole qui continuent de flamber. Et tant que la guerre durera, les prix des carburants resteront plafonnés.
C'est la promesse de Total, sommée de rendre des comptes sur ses très gros bénéfices. Opération séduction du géant pétrolier avec ce prix unique également en station-service ce week-end. Et pour les ponts à venir, 1,99 le litre de sans plomb, 2,09 pour le gazole. Pour amoindrir les effets de la guerre sur le budget des Français, l'inflation a bondi de 2,2% en un an selon l'INSEE, alors certains se serrent encore plus la ceinture. Reportage de Marion Degas à Dreux pour RMC.
Assia travaille en EHPAD et gagne 1900 euros par mois. Avec 3 enfants, elle a l'habitude de gérer son budget d'une main de maître. Mais ces derniers temps, ses comptes tombent dans le rouge dès le 17 du mois.
Je gagne bien ma vie, malgré ça, je me retrouve à moins 400 euros tous les mois. et depuis les problèmes d'essence surtout.
C'était pas le cas avant.
Je gérais mieux, j'arrivais à mettre de côté, etc. C'est fini tout ça.
Pour s'en sortir, certains ont dû adapter leurs habitudes. C'est le cas de cette infirmière de 37 ans.
On fait les courses vraiment au compte-gouttes. Avant c'était un caddie par semaine, maintenant j'y vais tous les 2-3 jours pour être sûre d'avoir ce qu'il faut dans le frigo. Mais on finit tous les mois dans le rouge malgré deux salaires et on arrive à moins 1000 euros alors qu'avant on était à moins 200, moins 300 maximum.
Et elle en vient à faire des concessions.
On se prive surtout, on dit non aux enfants surtout, pas de plaisir par mois, pas de vacances.
Face à la hausse des prix, Fanny a même du mal à se projeter vers l'avenir.
D'être tout le temps dans le stress de savoir si on va avoir assez jusqu'à la fin du mois, si on va pouvoir payer nos factures, j'avoue que moralement ça pèse et que c'est stressant.
On ne vit pas, on survit, conclut cette vendeuse de 25 ans qui touche le SMIC.
On va débattre de Total tout à l'heure, notre débat voix de droite, voix de gauche, de est-ce qu'il faut taxer Total ou au contraire défendre le fleuron industriel français. Mais est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat pour les mois à venir? La croissance à zéro, l'inflation qui repart à la hausse, est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat? On vous pose la question au 32-16 ce matin.
En football, Strasbourg devra réaliser l'exploit jeudi prochain contre le Rayo Vallecano pour la demi-finale retour de Ligue Conférence. Le Racing passé à côté de son match hier soir, défaite 1-0. Une autre demi-finale aujourd'hui, cette fois en tennis au Masters 1000 de Madrid. Le numéro 1 français Arthur Fils contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner, un adversaire de taille pour le français qui est très en forme, Maria Zé.
Deux mois après sa défaite écrasante contre Carlos Alcaraz, Arthur Fils retrouve ce qui se fait de mieux sur le circuit mondial.
Il joue Sinner, donc aujourd'hui c'est un peu le test ultime. Hein.
Julien Beneteau, ancien tennisman et consultant RMC Sport, croit en l'exploit du français, déjà vainqueur d'un tournoi sur terre battu à Barcelone et tombeur de deux membres du top 15 mondial ces dernières semaines.
Il bat les Kai en 2-7, il enchaîne, il a battu Musetti la semaine d'avant. Je pense que Sinner le craint parce qu'il voit que Fils est en très grande forme et en grande confiance.
Après sa victoire en quart de finale, le numéro 1 français déclarait que peu importe la adversaire, il entre sur le terrain pour gagner. Sa force de caractère impressionne Sarah Pitkowski, consultante de tennis RMC Sport.
Tu sens qu'il a la maturité aujourd'hui pour voir l'opportunité et de se dire, je mets tout en œuvre pour la prendre cette opportunité. Face à Sinner, il aura une opportunité. C'est pour ça que je lui mets comme une petite chance. C'est cette faculté aujourd'hui à bien jouer les momentums du tennis.
En face, Yannick Sinner reste sur 3 victoires au Masters 1000 d'Indian Wells, Miami et Monte Carlo. Un succès contre le numéro 1 mondial donnerait à Arthur Fils le plein de confiance à moins d'un mois du début de Roland-Garros.
Demi-finale à vivre à 16h sur RMC.
Oui, ça c'est bien, ça pour un week-end
bon programme.
1er mai, c'est pas mal, petite demi-finale à 16h le vendredi. Le quintet, ça c'est à Saint-Cloud, sera juste avant aujourd'hui à 15h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, c'est l'As Libecchio Wind, l'outsider. C'est le numéro 2, Lohen Green, l'As et le 2.
Merci Clara, c'était le journal, 7h38. Ali est en ligne avec nous depuis la Loire. Bonjour Ali.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Comment ça va Ali?
Eh ben, impeccable comme un 1er mai.
Alors, j'entends, parce que vous êtes conducteur poids lourd, j'ai l'impression, là, au son, là, vous travaillez pas aujourd'hui, Ali.
Ah non, si vous voulez même tout savoir, je suis en train de faire les gâteaux d'anniversaire à ma fille.
Voilà, ah. Je me disais, là, on a l'impression qu'il est dans une cuisine, dans une maison, il est plus sur la route, Ali. C'est aujourd'hui son anniversaire?
C'était lundi, mais là, on va le faire en famille. Donc,
bon anniversaire à votre fille.
Je m'occupe des gâteaux.
C'est un joli week-end. En perspective chez vous dans la Loire. Ali, vous avez réagi sur le pouvoir d'achat, sur cette crainte légitime de nombreux Français en ce moment sur leur pouvoir d'achat.
Ouais, de toute façon, tout le monde est concerné, hein, de la plus petite échelle à la plus grande échelle. Faudra juste réapprendre à vivre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on s'est un petit peu oublié, on avait tendance un petit peu à gaspiller notre argent, à gaspiller tout ce qu'on pouvait, entre guillemets, économiser. Donc aujourd'hui, on va faire des efforts.
Alors, vous le dites de façon vertueuse, on va réapprendre à vivre, à consommer, etc. En d'autres termes, ça veut dire quand même, Ali, se serrer la ceinture.
Alors, est-ce qu'on estime serrer la ceinture quand on éteint des lumières dans chaque pièce? Est-ce qu'on estime serrer la ceinture quand, au lieu d'augmenter un chauffage à 22 degrés, on va mettre un pull et un pantalon? Est-ce qu'on estime de jeter un peu moins d'alimentaire? C'est serrer la ceinture, moi j'estime que non.
C'est une très bonne réponse sur les économies qu'on peut faire. Et ça, c'est. J'invite nos auditeurs à télécharger le podcast de la Solution Conso. Tous les jours, on vous donne sur RMC la Solution Conso, Géraldine Demory, Charlène Villemer cette semaine, des solutions pour pas dépenser bêtement. Mais est-ce que, Ali, il y a des postes peut-être plus frustrants sur lesquels vous vous limitez? On parlait de votre fille à l'instant de son anniversaire. Les loisirs des enfants, peut-être.
Alors, Mathieu, je vais être honnête. Aujourd'hui, moi je le vois dans l'éducation de mes enfants, les loisirs c'est bien, mais frustrer les enfants c'est bien aussi. On a eu tendance ces dernières années à ne plus les frustrer, à tout leur laisser, à tout leur acheter, les derniers jouets, les dernières sorties. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut réapprendre à vivre et à dépenser son argent.
Merci,
c'est vrai,
Ali,
que je me suis laissé aller, même moi, pour ça.
Mais non, mais merci, Ali. Et je ne suis pas sûr que ça fasse forcément plaisir à entendre. Ce n'est pas forcément faux. Effectivement, éteindre la lumière quand on sort de la pièce, ce n'est pas mécaniquement serrer la ceinture. C'était une bonne réponse, Ali, qui nous appelle de la Loire aujourd'hui. Et bonne fête d'anniversaire en famille. Bonne fête d'anniversaire à votre fille, Ali. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La fuite massive de données de la NTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Un ado de 15 ans, tout seul, qui fait trembler les services de l'État. Sébastien Lecornu qui alerte. On connaît un casse du siècle tous les mois. Les sites des administrations particulièrement visés. Hier encore, le site de la Fédération Française de Basket. Pourquoi est-ce qu'on galère à protéger les données des Français? Je pose la question dans une minute à Clément Domingo, alias Sax. Il est hacker éthique. Son job, repérer les failles des systèmes informatiques. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 7h44. Sébastien Lecornu était en visite hier dans les locaux de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés après cette fuite qui a touché 12 à 18 millions de Français. Un casse réalisé par un ado de 15 ans. Il a été mis en examen hier. Bonjour Clément Domingo.
Bonjour Mathieu.
On vous connaît aussi sous le nom de Sax. Vous êtes ce que l'on appelle un hacker éthique. Votre job, c'est précisément de repérer les failles des systèmes informatiques. Première question simple, vous avez été surpris par l'âge du hacker, 15 ans ?
Moi non, mais j'imagine que beaucoup de vos auditeurs, et puis ce qui a aussi surpris beaucoup de Français, c'est un peu l'âge de ce mineur, de cet ado, qui est peut-être votre adolescent dans sa chambre isolée, qui a fait ce casse. Donc assez surprenant pour beaucoup, mais moi non.
Les auteurs présumés des vols de données ont 17 ans en moyenne. C'est-à-dire que ils ont 13 à 23 ans, pour le dire plus généralement. Et c'est-à-dire qu'à 13 ans, on peut mettre en péril une institution nationale.
Ben voilà un peu aujourd'hui l'envers du décor. Ben après, je vous rassure, il y a aujourd'hui aussi, Mathieu, vous savez, des jeunes qui sont assez doués, qui commencent tôt et qui ont la chance d'être pris par la main pour qu'ils puissent faire des choses. Mais hélas, lorsque vous êtes tout seul, vous n'avez pas de repères, vous pouvez très facilement tomber dans cette cybercriminalité. C'était hélas le cas de ce jeune, et comme les autres jeunes dont vous parliez, 13, 14, 15, 16, et pour certains d'entre eux qui sont à peine adolescents, 18, 20, 21, 22.
C'est un milieu dans lequel on se connaît les uns les autres. Je veux dire, son pseudo, c'est Bridge 3D. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Est-ce que vous le connaissez?
Bah, j'ai même échangé avec ce jeune homme-là il y a quelques temps de ça, puis pour lui demander un peu pourquoi tout ça. Après, de manière générale, il faut vraiment bien faire cette distinction-là entre le monde un peu des hackers éthiques et des cybercriminels, parce que ceux qui attaquent aujourd'hui nos données en France, d'ailleurs, je vais un peu tordre aussi le cou à cette idée reçue comme quoi pas mal des cyberattaques peuvent venir de la Russie. C'est certes vrai, mais sur ces deux dernières années, on a plutôt nos jeunes Français qui nous attaquent. Et la plupart d'entre eux aiment quand même beaucoup, beaucoup parler, beaucoup se montrer. Donc, en effet, on
peut assez facilement parler. Oui, il y avait un peu de frime, d'ailleurs. Sa photo de profil, c'est Pablo Escobar. Dans ses messages, il charrie l'État, il chambre même un petit peu. Clément Domingo, vous dites que vous avez pu échanger avec lui. On en sait plus sur son mobile. Il dit qu'il voulait alerter sur les failles des systèmes informatiques publics.
Bah pour ce jeune de 15 ans, il voulait en effet alerter de la situation là-dessus, sauf que pour d'autres entre eux, ce n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais aussi un peu rappeler, Mathieu, que aujourd'hui, lorsque vous trouvez des failles dans des systèmes informatiques, que ce soit des systèmes informatiques de l'État ou même d'entreprises, vous pouvez soit contacter directement les entreprises ou aussi passer par l'ANSSI, qui est notre Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, et surtout pas faire ce que ce jeune a fait.
Un casse du siècle tous les mois, dit Sébastien Lecornu. Il a fait des annonces hier, il va débloquer 200 millions d'euros dès la semaine prochaine. Je suis allé sur votre compte Twitter. Il était temps, avez-vous écrit?
Il était fort temps. Ça fait quelques mois, quelques années qu'on attend un peu ce réveil, ce sursaut de notre gouvernement. Je peux pas du tout vous dire qu'on ne dormait pas. Et on était tous très, très, très inquiets. Moi, le premier, hier, on a eu en tout cas des annonces. Enfin, certaines de ces annonces, moi, m'ont beaucoup, beaucoup plu. Après, forcément, j'attends qu'elles soient mises en place, parce qu'il y a quelques mois de ça encore, on avait notre ministre délégué qui faisait une autre communication autour de la stratégie nationale de cybersécurité. Mais maintenant, faut qu'elle soit concrète, ces annonces de notre Premier ministre, d'où cette enveloppe aussi de 200 millions. Mais je rappelle aussi que ces 200 millions vont seulement servir aux services publics et pas aux entreprises privées.
qui doivent aussi, et ça on avait raconté ici, que les TPE-PME surtout sont très très mal protégés. Il faut tous qu'on prenne conscience du risque et du danger autour de ces vols de données, de ce hacking, en l'occurrence pour la NTS, vraisemblablement réalisé par un gamin de 15 ans. Merci beaucoup Clément Domingo, Saxe, sur les réseaux notamment, et j'imagine sur les réseaux de hackers, je ne saurais pas dire ça, que je suis désolé, dans le dark web comme on dit, c'est ça?
Peut-être bien Mathieu.
Merci beaucoup, merci mille fois, il est 7h48. Dans un instant, le débat RMC, oui, oui, je faisais boomer sur cette sortie d'interview hacking. Le débat RMC avec un duo inédit ce matin. À gauche, Raquel Garrido. Bonjour Raquel.
Bonjour.
Et bienvenue sur RMC.
Mais merci,
ravi d'être là. Labrieux.
Bonjour.
On vous a jamais entendu face à face ici le matin encore.
Et non.
Et la première, c'est dans un instant. On va parler de Total. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h50 sur RMC, c'est l'heure du bonus. Élise, vous nous parlez ce matin de l'hymne de la Belgique pour le prochain mondial de foot.
Go! La Belgique est prête avec son titre Kiss the Grass, embrasse le gazon en français, sorti mercredi. Sauf que la fédération se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique, car le titre est signé Romeo Elvis. Alors Romeo Elvis, c'est un rappeur belge, c'est aussi le frère d'Angèle, mais il a surtout été accusé d'agression sexuelle en 2020, des faits révélés à l'époque sur les réseaux sociaux, faits qu'il a d'ailleurs reconnus et pour lesquels il s'est excusé. Sauf que le public, lui, n'a pas oublié, d'autant qu'il y a de ça 8 ans pour l'avant-dernière Coupe du Monde. La fédération avait écarté à la dernière minute le rapport d'Emso, belge lui aussi, pour ses propos misogynes. Qu'est-ce que tu croyais ? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Deux poids, deux mesures vivement dénoncés sur les réseaux et dans les médias. Reste à savoir si cette fois-ci, la fédération belge de football restera sur sa décision ou si elle fera volte-face. Il n'y a pas de quiproquo,
le soleil renaît dans ma vie. RMC, Apolline Matin, le débat.
Il est 7h51 sur RMC et RMC Story, 1,99€ le litre d'essence, 2,25€ le diesel. Le plafonnement des carburants continuera chez Total tant que la crise au Moyen-Orient durera, annonce hier du pétrolier. Bonjour Raquel Garrido.
Bonjour.
Avocate et notre voix de gauche ce matin sur RMC. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Propriétaire et gérant de Gîte.
Ouais,
c'est comme ça qu'on vous prononce, ouais. Vous présente dans Estelle Midi, j'ai entendu.
Ancien député européen.
Et ancien député européen, ça, évidemment, la voix de droite aujourd'hui. Duo inédit, Total Energy, qui annonçait 5 milliards de bénéfices au premier trimestre. Le gouvernement refuse le Total bashing, mais presse la multinationale de se montrer patriote et généreuse, de redistribuer. Alors, la générosité, ce sera les week-ends de mai, les week-ends prolongés, où le diesel sera plafonné à 2,09. Raquel Garrido, c'est de la communication ou de la redistribution?
C'est un peu des deux, bien sûr. On va pas non plus se plaindre du fait que les prix soient plafonnés de façon unilatérale par une grande entreprise multinationale. Mais on voit bien que c'est insuffisant et que ce n'est pas satisfaisant dans une démocratie qu'on laisse en fait notre quotidien et des choses aussi importantes que le prix des matières énergétiques entre les mains du bon vouloir d'un acteur de l'économie. Moi, je suis pour le contrôle des prix. Le contrôle des prix, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu quasi illégal. On n'en parle plus dans le cadre de la construction européenne. On dit qu'il y a la concurrence libre et non faussée. Bah, jadis, ça existait. Je sais pas si les plus anciens ici dans la maison se souviennent à l'époque où la baguette, par exemple, avait un prix maximum. On disait, il y a un certain nombre de produits dont nous, les Français, avons droit de dire qu'ils ont tel ou tel prix. Et on me dit, non, mais les secteurs de l'énergie, c'est un secteur concurrentiel. Et là, je dis faux. C'est faux. Regardez, le président du plus grand pays producteur de pétrole, les États-Unis, a enlevé le président du pays où il y a la plus grande réserve de pétrole, le Venezuela. Et lui-même, toujours le président donc de ce premier pays producteur de pétrole, est allé faire une guerre à l'endroit du monde où partent des millions et des millions de barils tous les jours. Donc, c'est un secteur qui est lourdement intervenu par la politique, par la géopolitique, et c'est dans ce contexte-là, je termine là-dessus, que les acteurs comme Total font de la spéculation, parce qu'évidemment, Trump, on voyait bien ce qu'il était en train de faire, ils ont spéculé, ils ont acheté des millions et des millions de réserves.
Alors à côté, sur au tout début de la guerre.
Exactement, exactement, ce qui explique aujourd'hui ce bénéfice de 6 milliards d'euros trimestriels.
Il faut plus de contrôle sur les activités.
Le contrôle des prix, au sens où Raquel Garrido l'entend, ça n'a jamais fonctionné. Parce que ça équivaut à fixer un prix de manière arbitraire, et la différence, qui va la payer, c'est le contribuable, ou alors c'est la pénurie. Parce que on produit pas de pétrole en France.
Il y avait pas de pénurie de pain quand c'était.
Si c'est pas rentable de vendre de l'essence, parce que le prix du baril, il est le même pour tout le monde, dans le monde entier. La preuve, on a deux références, le prix aux États-Unis et le prix du Brent, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec le pétrole qui est exploité dans le Golfe. Mais c'est la référence mondiale. Si vous bloquez le prix, de toute façon, un moment ou un autre, on vend plus en France. Si on produit pas, on s'est même interdit d'aller, d'aller en chercher du pétrole en France. On aurait pu aller prospecter du côté de la Guyane. On en trouve à droite et à gauche de la Guyane. Nous, on s'est interdit de le faire.
Mais du coup, ça veut dire qu'on laisse Total faire ou on taxe, on régule.
Je trouve qu'on a de la chance d'être un des rares pays de l'Union européenne. On doit être deux ou trois à avoir un grand pétrolier mondial. Total ou ses homologues, ils bloquent pas les prix. Total l'a bloqué son prix. Il les bloque pas dans les autres pays. Leclerc. Intermarché, il les bloque pas. Vous trouvez même de l'essence différente d'un Intermarché à l'autre. Donc c'est la preuve qu'ils font des marges différentes les uns les autres. Total dit, moi je le bloque parce que je suis français. Moi je trouve qu'on devrait plutôt s'en réjouir.
Raquel Garrido, il y a eu l'expression Total bashing qui est passée dans la semaine. Est-ce qu'il faut au contraire saluer le fleuron industriel français qui est Total?
Non mais évidemment qu'on ne peut que se réjouir que la France, je rappelle tout ça c'est elle, enfin tout ça c'est l'État à la base. Hein. C'est, de toute façon dès le départ c'est toujours les contribuables hein, en général, au début, au milieu, à la fin, qu'on soit sous la forme de payeurs d'impôts ou de payeurs de prix à la pompe, c'est quand même toujours nous qui payons. Mais aujourd'hui on voit que Total a versé des dividendes très important à ses actionnaires et les résultats extraordinaires qui ont été annoncés ces jours-ci vont provoquer un surcroît encore
mais
de paiement de dividendes. Non mais
en France
importe,
l'activité totale est déficitaire.
Vous êtes en train de me dresser les lauriers d'une entreprise et d'un fleuron français et à la fin ça va d'entre les mains des actionnaires.
Nous, la France,
on a un rapport à ça qui s'appelle les profiteurs de guerre, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on a dit que non, ça n'est pas éthique, ça n'est pas acceptable, c'est pas républicain, ça n'est pas patriote de faire des bénéfices de guerre et en conséquence de quoi il faut les récupérer.
À l'extérieur de la France, les bénéfices que fait Total, il les réalise à l'extérieur de la France.
Bénéfices de guerre fait à l'extérieur de la France.
Mais c'est le cas dans tous les autres pays.
Mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est républicain?
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être éthique, c'est d'avoir la chance d'avoir une entreprise.
C'est la différence entre la droite et la gauche, alors.
Oui, mais parce que vous vivez dans le rêve absolu.
Non.
Et c'est la loi. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la chance d'avoir une grosse entreprise qui permet, et c'est la seule sur le marché français des carburants, d'avoir des prix qui, eux, sont bloqués, mais par elle-même. Si on n'avait pas cette entreprise, elle n'en a rien à foutre. Eni à des stations-service en France. C'est une entreprise italienne. Elle bloque pas ses prix. Mais Shell, c'est...
Donc vous dites, on peut être une multinationale et être patriote, en fait. C'est ce que...
Mais je trouve qu'on a, plutôt de taper dessus, on devrait se réjouir d'avoir une entreprise qui fait aucun bénéfice en France et qui fait en sorte que les bénéfices qu'elle fait à l'extérieur, elle en fait profiter les Français à la pompe, parce que dans ses stations à elle, on paye pas le même prix que dans les stations.
Ce que vous dites tous les deux, parce que vous disiez, on salue quand même le fait de pouvoir avoir un prix plafonné, on va pas s'en plaindre, on va pas cracher dessus aujourd'hui, en fait.
Bien sûr.
Mais vous regrettiez bon vouloir.
Mais le prix plafonné,
c'est Patrick Pouyanné,
en fait. Le prix plafonné, quand on ne produit pas le produit, à la fin, c'est le contribuable qui le paiera.
Mais de toute façon, Total, c'est le contribuable, Jérôme Lavrieux.
La poche gauche du contribuable.
Attendez. Là, vous êtes en train de protéger.
La poche droite du consommateur.
Je vous écoute depuis tout à l'heure. Et pour le moment, vous n'avez rien proposé pour limiter le surcroît de dividendes indécent, vraiment, qui est versé aux actionnaires. Et vous avez 5 États de l'Union européenne qui aujourd'hui sont en campagne active pour qu'il puisse y avoir une taxe européenne sur les super profits. Et où est Emmanuel Macron? Où est le gouvernement français?
Après la guerre. Le début de la guerre en Ukraine.
Ce fut fait.
Et ce fut fait, et ça a été fait par l'Union européenne. Moi, aucun problème là-dessus.
Déjà militants ensemble pour ça.
J'ai un problème sur le blocage des prix. C'est artificiel, c'est se payer de mots et c'est le faire payer aux contribuables un jour ou l'autre.
Et ils vont réagir, d'ailleurs, les contribuables au 32-16 ce matin. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les deux, Raquel Garrido et Jérôme Lavrieux.
Merci, bon 1er mai à tous.
Dans un instant, bon 1er mai à vous. Ça se souhaite le 1er mai?
Mais oui, très important.
Je ne vous promets pas que j'irai défiler.
Mais on a du muguet quand même ici. Cela dit, le prix du muguet. Non, on va pas lancer le débat sur le prix du muguet, ça c'est le mien. 7h58 sur RMC, à tout de suite pour le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.